savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Marcello,
come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission tout muscle bandé puisque nous y parlons cette semaine du cinéma d'action américain. Voilà, la plateforme Amazon Prime a programmé toute la saga Rambo. L'occasion a été trop belle. Des explosions, des courses-poursuites, du sang, des muscles et la testostérone à en revendre. L'action, bien sûr, a toujours été une des formes reines du film américain, à commencer par le premier, l'attaque du grand train, The Great Train Robbery, le premier western américain, 12 minutes, sorti en 1903. Il paraît que les spectateurs avaient si peur qu'ils sortaient en masse et en panique de la salle. Mais bon, c'est dans les années 80 que le cinéma d'action devient un genre en soi, avec ses acteurs fétiches, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme. Et derrière la caméra, ces cinéastes attitrés, ces stars bien sûr, comme James Cameron, John McTiernan, Paul Verhoeven, mais aussi ces inconnus, Ted Kotcheff, George Cosmatos ou encore John Avildsen, inconnus, disais-je, considérés parfois comme des tâcherons, à tort ou à raison. On aura l'occasion d'en discuter dans cette émission, une émission corps à corps, avec nos trois spécialistes, historiens, professeurs, critiques de cinéma. Frédéric Gimelo, vous avez coordonné Le cinéma des années Reagan, un livre collectif paru aux éditions du Nouveau Monde, un livre dont vous avez signé la préface, Michel Ciotta. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Momcilovic, vous avez signé un chapitre de cet ouvrage, ça s'appelle « L'homme extraordinaire du cinéma, remarque sur l'œuvre d'Arnold Schwarzenegger ». Donc c'est une sorte de préquel à l'essai que vous avez consacré en 2016 au géant bodybuildé autrichien. Et en ce moment même est diffusée sur Arte votre série, votre mini-série sur le culturisme, tous musclés. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors s'intéresser aux films d'action, c'est se pencher sur une décennie mal connue, longtemps méprisée du cinéma américain, sans doute, je vous cite Michel Ciotta, resté dans l'ombre des flamboyantes années 70, une décennie de blockbusters à la bande-son aussi bruyante que leur vision du monde est simpliste, à l'image de l'idéologie réganienne. Alors dans cette émission, on parlera culte du muscle et de la violence, individualisme forcené, loi du talion. Mais avant, je vous propose de partir dans les forêts de l'Oregon, l'Amérique profonde, celle vantée par Thoreau, cascades, rivières, sapins, mille nuances de vert et de bleu, un paysage tout ce qu'il y a de plus bucolique jusqu'à l'arrivée du vétéran John Rambo.
State police calling John Rambo. Come in, please. Acknowledge.
He took a radio off of one of my deputies.
And he has to be listening. If I was in his position, I'd try to pick up some information, maybe catch some crosstalk.
Of course he's listening. He's not going to break radio silence.
No, not for us. But he might do it for you, Colonel. He's your boy, isn't he?
Copy, they're calling Raven. Copy, leader to Raven. Talk to me, Johnny.
Copy, leader, to identify Baker team. Rambo, Mesner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Danforth, Barry, Krakauer. Confirm.
This is Colonel Troutman. Talk to me, Johnny.
They're all gone, sir.
It's him. Get on it. Rambo, are you all right? Over.
Baker team, they're all dead, sir.
Not Delmar Barry. He made it.
Barry's gone too, sir.
How?
Got himself killed in now. Didn't even know it. Can't say him down to the bone.
I'm sorry, I didn't know.
I'm the last one, sir.
It's good to hear your voice, Johnny. It's been a long time.
Voilà, Talk to me, Johnny, parle-moi, Johnny. Vous l'avez reconnu, hein, c'est Rambo First Blood en 82, ou comment un gamin de New York, hein, de Hell's Kitchen, très précisément, quartier pauvre, miséreux de Manhattan, va devenir en un film une superstar mondiale. Bien sûr, je parle de Sylvester Stallone. Et je voulais vous faire entendre à tous les trois cet extrait, parce que c'est l'apparition du colonel Trotman, donc joué par Richard Crenna, pour ramener donc à la raison, hein, ce vétéran de la guerre du Vietnam devenu incontrôlable. C'est lui qui disait ça plutôt aux policiers. Je ne suis pas venu pour protéger Rambo, mais pour vous protéger de lui. Alors c'est un scénario qui a été écrit par, excusez du peu, James Cameron et Sylvester Stallone. On est en 82, donc 2 ans après l'élection de Ronald Reagan. Et de fait, Frédéric Gimelo, c'est un film très réganien. Hein. Je cite Pauline Kael, hein, la grande critique de cinéma. Selon Rambo, nous n'avons pas perdu la guerre au Vietnam, on ne nous a pas permis de la gagner.
Oui, c'est la lecture qui a été faite, en tout cas pendant les 20 premières années qui ont suivi ce film, justement d'une lecture typiquement réganienne qui va donc associer ce type de phrase que vous venez d'évoquer, mais aussi l'attitude de Rambo, une attitude revancharde, avec justement les utopies post-Vietnam et justement ce souhait de la société américaine d'entrevoir à travers ces représentations cinématographiques une revanche, justement sur l'échec diplomatique et politique et militaire aussi que fut le Vietnam.
Jérôme Momcilovic, avec Rambo, on assiste à une sorte de glissement, c'est-à-dire que des vétérans dans le cinéma américain, il y en avait beaucoup, hein, mais c'était plutôt des vétérans désaxés, estropiés, hein, mentalement ou physiquement. Exemplairement, c'est le Travis Bickle de Taxi Driver. Et là, tout à coup, on passe au héros revanchard.
Alors oui, mais ça, c'est une lecture qu'on fait généralement à l'aune de ce qu'ont été les suites de Rambo. Le premier Rambo est un film en fait beaucoup plus ambigu, plus compliqué à comprendre au fond, puisque à l'époque, assez tôt justement, on a considéré que c'était un film assez réactionnaire. Et c'est vrai que si on suit le scénario à la lettre, c'est l'histoire d'un personnage qui est traumatisé avant tout parce que, comme il le dit quasiment lui-même à la fin, le pays lui a pas laissé finir le boulot au Vietnam. Et en même temps, la dimension la plus intéressante, mais ça vraiment, c'est la même chose dans Rocky, en fait. C'est-à-dire que le premier Rocky, comme le premier Rambo, sont des films qui sont littéralement à cheval entre une noirceur très propre aux années 70 et ce qu'allaient être les années 80. Et ce qui est assez beau dans Rambo, c'est que ce personnage, c'est vraiment littéralement le retour du refoulé. C'est-à-dire que, pour le coup, là, la composante un peu années 70, c'est que c'est vraiment, Rambo, c'est vraiment le corps que l'Amérique ne veut plus voir, ne voulait plus voir, en tout cas dans la deuxième moitié des années 70, c'est-à-dire cette image de la force guerrière américaine telle qu'elle s'est cassée les dents quand même sur la question du Vietnam. Et donc on veut plus le voir, et lui revient, mais c'est encore une fois, c'est vraiment le pur retour du refoulé. Et d'ailleurs, dans le dernier opus en date qui est sorti l'an dernier, qui est un film assez monstrueux dans tous les sens du terme, mais intéressant, Rambo va se terrer dans les boyaux, dans une espèce de tunnel souterrain qu'il ramène vraiment à sa place, c'est-à-dire le sous-sol de l'Amérique, de ce qu'on voulait plus voir, c'est-à-dire de ce héros qui était plus regardable dans les années 70. Donc il y a vraiment cette idée que c'est un peu l'Amérique qui revient se hanter elle-même d'une certaine manière dans le premier Rambo.
Et même le personnage de ce point de vue-là, hein, du point de vue de ce que vous venez de dire, le personnage du colonel Trotman, voilà, littéralement, hein, avec un possible jeu de mots à la clé, c'est l'homme du trauma, c'est le retour du refoulé. Dans cet extrait, je le trouvais très intéressant parce qu'il appelle Rambo à la radio avec tous les membres de son commando qui sont morts au Vietnam, et tout y est. On a le bruit des hélicos en arrière-fond, on a le vocabulaire, hein, les body bags, et puis effectivement, Rambo, il est planqué dans une espèce de cage verte comme le Viet Minh.
Oui, et puis bah comme le Viet Minh, et puis au fond, l'horizon de tout ça, c'est l'Indien. C'est-à-dire qu'il y a un truc assez beau malgré tout, même si les suites sont vraiment, là pour le coup, de pur produit idéologique, c'est que la destinée de ce personnage, au fond, c'est celle d'un personnage qui avait voulu être un cow-boy, parce que c'est ce que le pays lui a enseigné. Ça, c'est presque l'amorce de beaucoup de films d'Eastwood, vous voyez, c'est-à-dire un personnage qui est une sorte de glaise façonnée par la mythologie de son pays, et puis qui va, au fil des épisodes, devenir un Indien, en quelque sorte. C'est-à-dire, on lui a refusé d'être un cow-boy, comme on pouvait l'être avant. Et quand on voit l'évolution dans les épisodes, on se retrouve quand même avec un Rambo avec un bandeau dans les cheveux, tirant à l'arc sur un cheval, se cachant dans la jungle, dans la forêt, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que c'est le retour à une dimension primitive qui fascine et qui en même temps fait peur, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la part sombre de la violence américaine, celle qu'on n'arrive pas tout à fait à justifier par la légitimité de la guerre, par la destinée manifeste, etc., etc.
Michel Ciotta, je vous cite, hein, Rambo, c'est l'ange exterminateur qui nettoie la ville, hein, qui crée l'illusion d'une victoire dans le sud-est asiatique. Donc effectivement, il y a ce retour victorieux du vétéran. Mais le film, me semble-t-il, porte aussi une accusation contre les élites, c'est-à-dire de la police locale qui est complètement barbare, sadique, stupide, au FBI et même au personnage de Trotman, hein, du colonel Trotman. On se prend à rêver, hein, au départ, il devait être joué, je crois, par Kirk Douglas. Mais même Trotman n'est pas très limpide. Et en fait, ce que nous dit le film, est-ce que ce n'est pas aussi que les Américains eux-mêmes ont perdu toute humanité ?
Alors écoutez, il y a une chose importante dans le Rambo numéro 1. Là, donc, je reviendrai sur le titre, hein, First Blood, parce que le titre américain est plus signifiant que le titre français qui, lui, exploite le fait qu'il y avait Rocky avant, qui avait rendu Stallone populaire. Mais ce qui est important dans le Rambo numéro 1, c'est que c'est un film qui sort donc bien après la fin officielle de la guerre du Vietnam, hein, qui est donc de 1975, et aussi c'est un film qui est inspiré d'un roman qui date de 1972, alors que la guerre n'était pas terminée.
Voilà, un roman de David Morrell.
Voilà. Et donc, lorsqu'on l'adapte au cinéma, le roman, bon, la trame est à peu près identique, mais la fin est extrêmement différente, parce que dans le roman, Rambo est abattu à la fin. Alors que nous, quand nous voyons le film, il y a une scène fondamentale, c'est lorsque Rambo, finalement, se rend auprès de son colonel, il pleure. Alors pour un héros du Vietnam, qui donc n'a pas été compris, et qui ici se venge de ceux qui finalement l'ont envoyé là-bas, mais qui, à son retour, l'ignorent, c'est très important dans un film musclé de voir quand même le héros assis par terre, qui non seulement fond en larmes, mais pose sa tête contre la poitrine de son ancien colonel, son père spirituel et physique, qui l'a formé en véritable tueur.
Good night. Good night.
I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
No, can't see her. She's making a statement.
Where is she?
Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there.
I'll be back.
Be back, dit le Terminator, alias Arnold Schwarzenegger, une phrase culte pour un massacre au commissariat où se trouve celle que cherche le Terminator, Sarah Connor. Alors l'histoire, je parle hein, sous votre contrôle à tous les trois, un tueur venu du futur, donc d'un monde où les robots ont pris le pouvoir sur les humains, ce tueur c'est Terminator bien sûr, a pour mission de tuer une humaine, hein, Sarah Connor, qui doit donner dans le futur naissance à un enfant qui sera le chef de la résistance, donc aller-retour, Jérôme Momcilovic, entre présent et futur, cyborg et humain. Vous disiez tout à l'heure, justement, le corps de Stallone, il est du côté de l'histoire, alors que celui de Schwarzenegger est du côté de l'utopie.
Oui, c'est un petit peu, si on devait résumer à gros traits ce qu'était l'idéologie de ces années-là, et l'idéologie de Reagan en particulier. Reagan, c'est quelqu'un qui avait coutume de dire que, contrairement aux apparences, parce que c'est quelqu'un qui se présentait dans les médias avec un chapeau de cow-boy, en train de couper du bois, de faire du lasso, enfin bref, donc qui jouait à fond sur cette imagerie très très régressive de l'Amérique mythique, c'est quelqu'un qui disait « je ne suis pas un nostalgique du passé, ce dont je suis nostalgique, c'est de la façon que le passé avait de regarder le futur ». Autrement dit, ce qui résume vraiment l'idéologie de ces années-là, c'est une formule qu'on entend dans la chanson de Rocky III, qui dit « Don't lose your grip on the dreams of the past, you must fight to keep them alive ». C'est-à-dire littéralement, ne perds pas prise sur les rêves du passé, tu dois les maintenir en vie. Et ça, d'une certaine manière, c'est ce qu'a fait Stallone, c'est-à-dire aller chercher dans le dans le tissu historique et mythologique du pays, des raisons de croire à nouveau dans le mythe fondateur, alors que Schwarzenegger, lui, c'est vraiment le corps purement utopique, c'est-à-dire tout ce qu'un corps peut exprimer de désir de futur, en quelque sorte. Néanmoins, il y a quand même un vrai rapport au passé chez Schwarzenegger, qui est peut-être plutôt un rapport au passé du cinéma. C'est-à-dire qu'un film comme Terminator, ce qui pour moi le rend vraiment beau, c'est que c'est un film qui renoue avec ce qui était par exemple le Frankenstein de James Whale, c'est-à-dire un film qui, à partir d'un argument fantastique, gothique, en fait, nous rappelle à ce qu'est fondamentalement la machine cinéma, c'est-à-dire une machine qui a été inventée pour redécouvrir l'événement qu'il y a derrière le corps humain, le mouvement humain. Et au fond, vous disiez que le film n'était pas facile à résumer. La mission du Terminator, on n'a pas besoin de s'embarrasser des péripéties du scénario. La mission du Terminator, c'est de modéliser l'homme, de modéliser le corps humain. Et ce qui est très beau dans ce film, c'est que quand on le regarde, lui, le robot, en vérité, ce qu'on regarde à nouveau, parce qu'on n'avait plus l'habitude de le faire, c'est la merveille du vivant, du corps façon Descartes, c'est-à-dire du corps comme une machine complexe et admirable.
Et c'est là que vont apparaître justement de façon très claire cette grande opposition, hein, ce jeu de miroir entre d'un côté Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Parce que de Rocky à Rambo, c'est toujours une sorte de corps martyrisé. Hein. D'ailleurs, dans Rambo, il va s'empaler le bras sur une branche, il est en sang en permanence. Dans Rocky, c'est pareil. Et puis en face, le corps complètement fétichisé de Schwarzenegger.
Oui, c'est ça, Stallone, c'est le corps lesté par l'histoire. Mais à la limite, là, on pourrait dire que la métaphore de Frankenstein marche pour les deux, au sens où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Stallone, dans Rambo, par exemple, c'est vraiment la créature de Frankenstein, au sens où elle échappe à son créateur. Quoi. Là, c'est vraiment la créature de l'Amérique, la créature de la culture de la violence et la culture de la guerre américaine qui échappe à son créateur. Du côté de Schwarzenegger, c'est vraiment la version optimiste du mythe, c'est-à-dire la merveille qu'il y a à l'idée de pouvoir imiter le vivant, et ça, évidemment, c'est l'affaire du cinéma avant toute chose.
The Russian towers above the American. It's a true case of David and Goliath here. It's unbelievable the condition of both men, but the Russian champion.
I must break you.
Oh, Ima! Wait! Ivan Drago wa Woki Barbara Taiste!
You know what I says back there about wanna be you?
Yeah.
Forget it.
Trainer.
Avec quoi?
Das wirst du dit. Das ist der Bitte. Das ist der Bitte.
Take it straight to him. Take it straight to him. Be a rock for him. You understand? Be a rock for him. Be strong. All right? Now take it to him. No pain. No pain.
No pain.
No pain. All right, walk to it.
C'est David contre Goliath, hein, dit complètement emballé le journaliste qui commente le match. Donc l'affrontement entre Rocky, Sylvester Stallone et Ivan Drago, Dolph Lundgren. 118 kilos de muscles, regard de cyborg, cheveux rasés. Bien sûr, c'est Rocky IV en 1985, dont l'Union soviétique fait son entrée sur le ring. Les méchants communistes qui avaient presque disparu des écrans dans les années 70 sont de retour. Et Michel Ciotta, ça va être le plus grand succès de la série des Rocky.
Oui, alors ce qui est très intéressant aussi, même je ne rentre pas dans le détail par qualité de ce film-là, mais c'est que si vous faites un parallèle entre Rocky et Rambo, l'ensemble, hein, c'est-à-dire les cinq Rambo, les six Rocky et les deux Creed, eh bien c'est très intéressant de voir qu'à trois reprises, c'est très lié à la politique américaine du moment. Le premier Rocky sort en 76, c'est l'année donc, la fête du célébration, comme on dit là-bas, du bicentenaire des États-Unis. L'Amérique vient de traverser une très très mauvaise passe, la contre-culture, la guerre du Vietnam, l'échec, etc., plus le Watergate. Et ils ont besoin de se laver, de se purifier. Et ils ont un candidat qui est chez les démocrates qui peut faire l'affaire, hein, avec des initiales messianiques, Jimmy Carter. Mais du côté des républicains, où se situe bien sûr politiquement Rocky, c'est Reagan, en fait, que l'Amérique veut. Mais une tradition aux États-Unis, c'est de garder le président en place. Et c'est l'ancien vice-président de Nixon, Ford, qui n'a jamais été élu. Et finalement, après un discours phénoménal par sa popularité de Reagan, on lui demande d'attendre 4 ans, eh bien, ils choisissent par la force des choses Ford. Et Rocky apparaît à ce moment-là. Et ce qui est très fort dans Rocky, c'est que l'action se passe à Philadelphie. C'est là où on a signé la déclaration d'indépendance d'Jefferson en 1776. Donc c'est une véritable renaissance Rocky. Alors, si vous regardez la suite, en 82, ce sont les midterm elections, et là, vous avez Rambo, le numéro 1, qui sort, ainsi que le Rocky 3, l'œil du tigre. C'est intéressant, c'est l'année où, malgré une récession économique, aux élections de moyen terme, la Chambre des représentants et le Sénat est quand même dominé nettement par les républicains de Reagan. Et si l'on continue en 88, c'est une année donc d'élection, c'est la fin du deuxième mandat de Reagan, mais qui cède la place, bien sûr, à son vice-président Bush senior. Et vous avez Rambo 3 qui sort cette année-là. Donc, lorsque on parle du 4 en 85, où il y a un retour, effectivement, de l'anti-communisme américain, la grande bataille entre Rocky et ce tueur russe est tout à fait dans le ton d'une tradition anti-soviétique, communiste, bolchevique, socialiste, enfin tous les mots méchants qu'on emploie aux États-Unis depuis 1917.
Et par moment, on se demande si c'est Reagan qui imite Rambo ou Rambo qui imite Reagan, hein, puisqu'on cite qu'après la libération des 39 otages au Liban, Reagan va dire, le président donc va dire, après avoir vu Rambo l'autre jour, je saurai quoi faire la prochaine fois que ça se produira.
Exactement.
Et on va inventer le terme de Reaganite Entertainment, donc divertissement reaganien. Frédéric Gimelo, qui forge cette expression et qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un journaliste universitaire américain qui s'appelle Robin Wood, un personnage de cinéma que vous connaissez bien, qui forge ce néologisme, cette terminologie pour justement caractériser ces films où l'action devient le principal moteur narratif.
On vient d'en parler, Jérôme Mobsilovic. Il y a un texte remarquable, signé Pascal Chauvet, dans le livre collectif auquel vous avez participé, donc sur le thème des mythologies politiques. Elle écrit que dans ces années-là, il n'y a que deux grandes figures de héros, donc d'un côté le survivant, Rambo, de l'autre le vainqueur, Rocky. Encore faut-il dire que le vainqueur ne va devoir sa victoire qu'à sa persévérance, à son endurance, à sa foi en lui-même, hein, aussi, c'est un thème très réganien ça aussi, et à sa capacité à encaisser les coups. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier moment du cinéma américain où on voit justement un working class hero, un héros de la classe ouvrière?
Alors, en tout cas, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on s'intéresse aux films de Stallone, et malgré la qualité erratique des films, ce qui est toujours très beau chez lui, c'est son portrait des classes populaires. Dans le premier Rocky, c'est vraiment très très beau, et Rambo, c'est une vraie figure populaire. Le problème, c'est qu'en France, on a tendance à considérer que dès lors qu'il y a un éloge des classes populaires, on est forcément dans un cinéma de gauche, disons, pour le dire très vulgairement. C'est un peu plus compliqué que ça, et typiquement, d'ailleurs, on voit bien que...
On l'a vu avec l'élection de Trump, hein.
Bah voilà, exactement. Ou même tout à l'heure, vous voyez, je parlais un peu d'Eastwood, on peut aller chercher dans un imaginaire qui est un peu celui de Springsteen aussi, c'est-à-dire des choses qui sont ni de gauche ni de droite au fond, mais qui bousculent un petit peu nos repères à nous. Et dans Rocky, par exemple, au fond, ce dont le film fait l'éloge, et de manière assez capraesque, j'ai envie de dire, parce que la formule du premier Rocky, elle revient, quoique de manière un peu dégénérée, évidemment, de ce qu'était le moteur d'un film comme Monsieur Smith au Sénat, par exemple, c'est un éloge d'une forme d'innocence, d'une forme d'idiotie, même, parce que ce sont des personnages vraiment idiots, mais au sens d'une noblesse de l'idiotie, quoi, d'un côté enfantin, qui doit ramener à une forme de croyance pure dans le mythe américain. Et en fait, la victoire de Rocky, elle se joue sur ce terrain-là. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du premier film, il ne gagne pas le combat. Et bien entendu, il gagne symboliquement un combat qui était de se dresser pour défendre les valeurs de la démocratie américaine. Voilà, c'est vraiment, et c'est pour ça, encore une fois, comme le précisait Michel tout à l'heure, que le film se passe à Philadelphie, pendant le bicentenaire de la naissance des États-Unis. Rocky, c'est vraiment celui-là. C'est celui qui va ramener une forme de foi, encore une fois, dans les mythes fondateurs. Et dans Rocky IV, puisqu'on parlait de celui-là, là, ça devient assez gaguesque, mais c'est très lisible aussi. Il va s'entraîner en Russie pour combattre donc l'ennemi soviétique, mais en Russie, tandis que l'autre s'entraîne dans des salles très modernes, très voilà, lui s'entraîne dehors. Et en gros, les images qui reviennent à ce moment-là, quand il tire des charrettes, quand il coupe du bois, sont vraiment des images des premiers trappeurs américains. Donc l'idée, c'est que il fait revenir l'histoire de l'Amérique, le fondement de l'Amérique, jusque dans les steppes russes. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et le fameux œil du tigre qu'il doit retrouver dans le troisième, c'est un argument qu'on trouve souvent dans Rocky, c'est que son problème, c'est qu'à partir du moment où il a du succès et des victoires, il penche trop du côté de la civilisation, en quelque sorte. Et vous savez, dans la culture américaine, il y a toujours ce hiatus entre la sauvagerie originelle et la civilisation. Et retrouver l'œil du tigre, c'est ça, c'est aussi aller se ressourcer à l'origine de l'Amérique. Exactement. C'est retrouver l'Indien en lui. On en revient toujours à la même, au même enjeu, au fond. C'est-à-dire qu'un bon, un bon héros américain, il est toujours autant cow-boy qu'Indien, finalement.
Rambo véhicule les valeurs de l'écologisme, du mouvement post-68-art des années 70 qui a touché le monde occidental des années post-68 et des utopies 68-art. C'est ça ce qui est tout à fait intéressant et ambigu dans ce personnage.
Jérôme Momcilovic, on dit toujours que Hollywood grossit, et spécifiquement dans les années 80, hein, jusqu'à la caricature, ce que pense le public américain, que c'est une usine à préjugés. Effectivement, là, enfin, si on prend Rocky IV, on voit bien comment est présenté le russe Drago. Hein, c'est presque, enfin, quand on le voit, c'est presque un nazi, quoi, avec ses cheveux, sa mâchoire carrée. Et en même temps, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire la même chose? On a plutôt l'impression que depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, c'est un peu l'inverse, non ?
Je pense que la grande différence, et vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être la dernière période où on a présenté le working class hero, etc. Je pense que peut-être les années 80 américaines, enfin hollywoodiennes, sont peut-être le dernier grand moment idéaliste par rapport à cette mythologie américaine. C'est-à-dire le dernier moment où on pouvait se permettre d'y croire et vraiment, encore une fois, avec des errements assez caricaturaux par moment. Mais je pense que depuis, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'ironie a absolument tout envahi. Donc il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, d'incarner, vous voyez, aussi naïvement ces valeurs-là. Et encore une fois, c'est cette naïveté, quand on considère ces années-là, qui laisse quand même quelque chose d'assez beau et de persistant. Il ne faut pas oublier que Rambo et Rocky sont avant tout des personnages avant d'être des films. Et ce sont des personnages de grands solitaires, des personnages assez tragiques. Et finalement, ce qui va rester, disons, dans l'histoire du cinéma, c'est probablement plus le personnage et l'émotion véhiculée par ce personnage que cette structure idéologique qui est aveuglante, qu'on ne peut pas ne pas voir, évidemment, mais dans laquelle il est presque un tout petit peu passager clandestin, finalement.
AWACS contact on 4-hour intervals. Who's our backup? No such thing, old buddy. This is a one-way ticket. Once we cross that border, we're on our own. This is getting better by the minute.
Bill speaks to God. Everything that Uncle John needs, old baby.
I said, you know, I'd like a little pussy. She said, me too. Mine's as big as a house. See, she wanted a little one because hers was as big as a house.
Yeah, baby.
Get that stinking shit out of my face.
Bunch of slack-jawed faggots around here. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus. Just like me.
Yeah, scrap this on your sore ass plane.
I was in 72, north of Way.
Me and Dutch both got one.
Lumière rouge et ambiance dortoir des garçons dans l'hélicoptère où le commando mené par Dutch, alias Arnold Schwarzenegger, part dézinguer des guérilleros communistes avant d'avoir fort à faire avec la bête tapie dans la jungle guatémaltèque. C'est Predator de John McTiernan, on est en 1987. Une fois de plus, hein, l'Amérique rejoue le Vietnam à domicile avec cet ennemi féroce et invisible, extrêmement cruel, hein, puisqu'il écorche ses victimes. L'enfer vert, on serait vraiment tenté, Michel Ciotta, de mettre en miroir ces deux films, hein, Rambo, Predator. Et on a l'impression que le cinéma américain des années 80 se rejoue le Vietnam sous toutes les combinatoires possibles.
Oui, ben, tout simplement parce que ça a été un traumatisme, comme on le disait tout à l'heure, le premier très grand traumatisme de l'histoire des États-Unis, une défaite militaire. Vous savez, l'Américain, c'est un vainqueur. Il n'y a pas de place pour un battu, même quelqu'un comme... Regardez en France, par exemple, l'espèce de mythe qu'on a fait de Raymond Poulidor, toujours deuxième, ou presque. aux États-Unis, c'est absolument impossible. On part du contraire, on part de celui qui est vraiment a atteint le bottom, le plus bas niveau, et qui, avec une force de caractère, va remonter la pente petit à petit, plus ou moins bien, mais en s'accrochant toujours, et il réussit finalement. Ça, c'est Rocky par rapport à les États-Unis des années 1970, et vous avez Rambo qui, lui, par rapport au Vietnam, va faire absolument la même chose. Alors, Rambo a fait des petits par la suite, et là, vous citez Predator, on peut citer d'autres titres qui ont été cités tout à l'heure aussi. Le Vietnam, l'échec du Vietnam doit être occulté complètement pour bien montrer comment l'Amérique peut être grande encore et plus grande encore. Let's make America great again. Donc Reagan va... Si Rocky engendre Rambo, eh bien Reagan, lui, engendre Trump aujourd'hui. Et vous avez plein de films qui vont dans cette direction-là dans les années 80.
Oui, effectivement, Michel Ciotta, il y a cette idée que les soldats américains ne vont jamais céder devant un pouvoir étranger, en l'occurrence ces guérilleros communistes, mais que, effectivement, c'est plus recevable hein, qu'ils cèdent devant le Predator, hein, une entité extraterrestre. Et avant, Jérôme Momcilovic, on a vu cette poignée de main incroyable entre Dutch et le chef de la CIA. C'est un plan qui littéralement suinte la testostérone. Et on va, enfin, il y a toute une dimension satirique dans ce film qui est vraiment étonnante, que ce soit les répliques hein, qui vont devenir cultes de Schwarzenegger, Showtime Kid, Stick Around. Hein, il y a un guerriero qui vient de se faire empaler contre une porte et il lui dit Stick Around. Ou alors Knock Knock. Il y a une surenchère visuelle. Enfin, Pauline Kael disait, c'est presque de la BD. C'est comme si un tank installé sur vos genoux vous tirait dessus. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, alors après, il faut Predator, je trouve que c'est vraiment un très grand film, et c'est un film qui est aussi assez complexe au fond, enfin disons qui échappe un petit peu à nos terminologies habituelles, c'est-à-dire est-ce que c'est un film critique, est-ce que c'est un film au contraire du côté du pouvoir. La question se pose pas comme ça. Il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le bouleversement majeur dans le système des studios à partir de la fin des années 70, c'est-à-dire la naissance du blockbuster, c'est évidemment un changement dans le mode de production. En gros, on découvre qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec les films pour des raisons qui ne tiennent pas à la qualité des films, mais simplement à la façon dont on les vend. Et ce qui a beaucoup changé surtout avec le succès des Dents de la Mer, c'est que les films qui jusque-là étaient des films de série B, c'est-à-dire qu'aller voir les adolescents dans les drive-in en double programme, ces films-là, soudain, vont devenir les séries A. Et ça, on voit bien aujourd'hui, il n'y a plus que ça.
Mais avec des moyens colossaux, parce que Predator a coûté 15 millions, donc Die Hard, plus loin, coûtera 28 millions. Donc on n'a jamais mis autant d'argent dans des films.
Là, pour le coup, c'est le génie vraiment de McTiernan, c'est qu'un film comme Predator montre bien à la fois, on a un pur sujet de série B des années 50. D'ailleurs, au départ, le film, avant que McTiernan ne le reprenne en main, était appelé à ressembler vraiment à une limite, une série Z des années 50. Mais ce que sait très bien faire McTiernan, c'est attirer le suc, j'ai envie de dire, abstrait et spéculatif de ces scénarios-là. C'est-à-dire, dans Predator, il n'y a rien. Il y a un groupe d'hommes dans la jungle face à un monstre et c'est tout. Et la beauté de la série B classique, si on va chercher Jack Arnold, Edgar Ulmer, etc., c'est qu'il n'y a tellement rien dans ces films-là que finalement, cette espèce de dénuement et ouvre la porte à toutes les métaphores possibles, à toutes les interprétations possibles. Et Predator, c'est exactement ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce film est à la fois la pointe, on va dire, de l'imaginaire viriliste et on ne peut plus masculin des années Reagan, et en même temps, il en est pratiquement la critique. En tout cas, il en est vraiment l'analyse pratique d'une certaine manière. Et dans l'extrait que vous avez passé, qui est très bien choisi, on entend à un moment une blague terriblement misogyne. Et vous voyez, typiquement, les analyses qu'on tente de faire aujourd'hui, structuralistes, sur le regard masculin, le regard féminin, si on s'en tient à la surface d'un film comme ça, c'est le film le plus outrageusement masculiniste qu'on ait jamais produit. Mais en même temps, c'est un film, encore une fois, qui va, en quelque sorte, vider un petit peu ces figures-là de leur substance. Alors, satirique, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient révéler dans le film combien fondamentalement ces figures-là sont caricaturales. Et c'est vraiment la fonction du Predator ici. D'ailleurs, on peut tout à fait mener une analyse du film qui consisterait à dire que la femme qui manque dans le film, en vérité, c'est le Predator. Et le mal causé par le Predator, c'est une sorte de vengeance, de vengeance du féminin, en tout cas de vengeance de tout ce qui n'est pas l'homme blanc américain musclé militaire promu par les années 80.
No one kills him but me.
Already killed one hostage. They are fortifying their positions while you're jerking me off on a radio. Now send the police.
Sir, I've already told you. This is a reserve channel. If this is an emergency call, dial 911 on your telephone. Otherwise, I'll have to report this as an FCC violation.
Fine. Report me. Come the fuck down here and arrest me. Just send the police now.
See if there's a black and white that can do a drive-by.
Un policier pris au piège dans un gratte-ciel de Los Angeles par un groupe de criminels, John McClane, va essayer d'appeler la police qui ne comprend rien. Bien sûr, c'est Die Hard, le chef-d'œuvre claustrophobique de John McTiernan. 40 étages de pure aventure, proclamé l'affiche. Et c'est vrai, en une poignée de films, on va voir John McTiernan qui va donner naissance à plusieurs icônes de la pop culture. John McClane, Predator. Est-ce qu'il change aussi, Frédéric Gimelo, les conventions du film de super-héros?
Moi, je serais assez réservé là-dessus. Je pense qu'on n'invente jamais rien dans le cinéma. Ça, on le voit bien si on observe des temps longs. Le cinéma se réinvente toujours avec des réalisateurs qui sont à la norme et qui ensuite deviennent qui deviennent la marge, et le contraire, des cinéastes marginaux qui deviennent la norme. Et donc, on a sans cesse un mouvement de périphérie vers le centre, d'exfiltration, en tout cas de repoussement vers les frontières esthétiques, politiques, thématiques, qui vont à nouveau réinventer d'autres codes. Donc là, sur les années 80, on n'a rien de différent de ce qu'on a vu dans les années 70, 50, même l'âge d'or d'Hollywood. Et tout à l'heure, Jérôme a fait un petit lapsus, mais je voudrais rebondir dessus. Il nous a dit le cinéma américain hollywoodien. Et je pense qu'on comprend bien ce qui se passe dans cette décennie-là, si on prend bien conscience que les films dont on est, qui ont été le plus diffusés dans la culture populaire, sont des films hollywoodiens et non pas forcément américains en tant que tels. Je vous ai cité tout à l'heure quelques exemples de films qui ont eu une diffusion sans doute un peu plus confidentielle, encore que Mel Gibson, dans le film The River, a quand même eu une notoriété quand même, enfin, la notoriété a été construite aussi grâce à ce film. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose au niveau économique. Le cinéma des années Reagan va bénéficier d'un phénomène assez intéressant qui est une évolution technologique, qui est celle de la VHS. On est à la fin des années 70, à l'invention de la VHS, et le début des années 80, tous ces grands succès populaires vont être diffusés dans l'espace domestique par le biais, justement, vous avez évoqué les dortoirs des garçons, etc., mais aussi les lycées, les ciné-clubs des lycées, etc., par le biais de la VHS. On va avoir une diffusion extraordinairement rapide et qui va massifier à la fois, mais qui va massifier à la fois les classes sociales qui vont être imprégnées de ces films-là, et qui va permettre aussi à ces films qui vont leur donner une véritable longévité sur l'ensemble de quasiment 20 ans, hein, puisque lorsqu'on a fait le livre en 2007, on célébrait les 20 ans de ces films. Grâce à la VHS, ça leur a donné véritablement une seconde vie et ça a permis de réévaluer en fait leur qualité première.
Jérôme Momcilovic, John McClane, c'est un héros, alors je le disais, hein, il va devenir une icône de la pop culture, mais en même temps, il est assez atypique déjà. Il a de l'humour, hein, ce qui le distingue des deux S, Stallone, Schwarzenegger. Ouais. D'ailleurs, le choix de Bruce Willis n'était pas totalement gratuit, hein, puisque c'était un acteur assez peu connu, mais qui venait de la comédie. Et dans le même temps, est-ce qu'on assiste à l'invention d'un nouveau type de héros de films d'action? Parce que c'est une sorte de loser, il est plus ou moins alcoolique, il est plus ou moins divorcé, il est quasiment pieds nus en Marcel, il n'est pas du tout crédible pour passer à l'action.
Ben en fait, alors j'ai envie de dire s'il l'est d'autant plus, mais je suis d'accord avec Frédéric sur l'idée que les formes se, enfin comment dire, qu'on n'invente jamais complètement des formes ex nihilo, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire que ce avec quoi renoue McTiernan quand il fait un film comme ça, c'est vraiment avec le burlesque des origines, c'est-à-dire avec ce moment où pour les spectateurs de cinéma, le corps à l'image est encore une espèce de pantin mis à disposition en quelque sorte par la machine cinéma pour qu'on puisse en jouer vraiment comme d'un jouet. Il y a une dimension très ludique, très enfantine dans le cinéma des années 80. Et Piège de cristal, c'est vraiment typique de ça parce que c'est l'histoire, et ça vaut pour le troisième opus que réalisera aussi McTiernan, c'est vraiment l'histoire de l'éternelle histoire de l'homme confronté de manière catastrophique au monde moderne. Et c'est pour ça que le personnage de Don McClane a ce côté un petit peu réac qui convient bien à ce qu'était la personnalité de McTiernan. McTiernan, c'est quelqu'un qui aurait dû, lui, pour le coup, faire des séries B dans les années 50, hein, qui est né à la mauvaise époque. Et il y a vraiment l'idée, encore une fois, que c'est un personnage qui est en butte à l'absurdité de la civilisation moderne. Donc dans Die Hard, c'est vraiment tout ce qu'incarne cet immeuble de, évidemment, des années 80, de l'urbanisation des années 80, de l'argent roi, etc. Et donc il y a une forme de résistance là-dedans, mais au fond, on n'est pas très très loin, toute proportion gardée, de ce que racontaient certains Buster Keaton, certains Harold Lloyd, c'est-à-dire encore une fois une sorte d'immense séance de gymnastique qui nous raconte presque de manière métaphysique, encore une fois, la lutte de l'homme contre le monde tel qu'il est en train de changer, quoi, tel qu'il va vers la catastrophe.
Et c'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que ça marche à fond. On grimpe sans cesse de niveau en niveau. Évidemment, ça va être un carton. Hein, je crois que le box-office du premier Die Hard, donc Piège de cristal en français, ça va être 80 millions de dollars. D'ailleurs, Jérôme Momcilovic, c'est étonnant de voir à quel point finalement tous ces films, chacun des films dont on parle depuis le début de l'émission, est devenu une franchise à succès.
Ah bah ça, encore une fois, c'est ce qui est né à la fin des années 70. C'est-à-dire, il y a quand même un truc qu'on remarque par rapport à aujourd'hui, c'est que certes, les années 80 ont inventé ce système de studio qui a vraiment fait quasiment mourir le grand cinéma hollywoodien de studio, hein, qui produit plus grand-chose d'intéressant aujourd'hui. C'est un peu, en fait, quand on repense aujourd'hui à ces productions-là, on se rend compte que Carole Co, par exemple, Orion, ou toutes ces petites sociétés-là, étaient quand même gouvernées par des gens qui, certes, voulaient faire du profit, mais ça, c'est toute l'histoire d'Hollywood, mais qui avaient encore un rapport au cinéma. C'est-à-dire, si on va vraiment à l'extrême le plus vulgaire, je pense à Top Gun par exemple, un producteur comme Don Simpson, qui est vraiment un emblème de ce cinéma des années 80, c'est quelqu'un qui a encore un rapport au cinéma, alors qu'il y a un rapport absolument vulgaire, absolument enfantin, tout ce qu'on veut, mais pour lequel il y a encore une sorte d'exaltation, une sorte de jouissance face à l'idée du film, ce qui a absolument disparu aujourd'hui chez les exécutifs des grands studios. Et c'est peut-être ça la différence, et finalement cette espèce de naïveté, d'exaltation, de dimension enfantine à laquelle on peut tous encore prendre plaisir en revoyant ces films des années 80, elle tient à ça. C'est-à-dire que c'est un moment à la fois de dégénérescence terminale de ce qu'avait été le système hollywoodien, et en même temps, dans cette espèce de feu de joie final, il reste quelque chose de très forain, finalement, et qui est vraiment au cœur du cinéma. Quoi.
On pourrait citer Joel Silver, hein, le producteur de Piège de cristal, hein, puisque finalement, ce film, c'est aussi la naissance d'un couple, John McTiernan, Silver aurait dit sur le tournage « I want an explosion the size of Cleveland », c'est-à-dire « je veux une explosion de la taille de Cleveland ». Donc c'est vraiment cette idée hein, qu'on met la argent, mais il faut le voir à l'écran.
Oui, bien sûr. Mais ça, encore une fois, finalement, ça nous ramène à une forme d'archaïsme du cinéma. Donc, c'est quelque chose qui est pas complètement neuf.
Et on peut rajouter peut-être quelque chose sur Piège de cristal, c'est que l'originalité du film vient non pas du héros. Bien sûr, vous avez souligné qu'il est atypique par rapport au paysage des héros des années 80. Mais ce qui me semble important dans ce film, c'est que c'est le premier film pour lequel on a un antagoniste, enfin des antagonistes qui sont clairement des terroristes. On a des terroristes qui prennent en otage un symbole de la puissance économique américaine, qui est cette tour, qui est en fait la Fox Tower de Los Angeles, et qui anticipe quelque part de quelques années ce que sera le 11 septembre 2001.
Alors, pardon, je me permets de vous interrompre, mais justement, c'est là l'élégance de McTiernan, c'est que dans les deux films qu'il a réalisés, dans Piège de cristal et dans le troisième, dans le scénario, en vérité, ceux que l'on croit être des terroristes se révèlent à la fin ne pas être des terroristes, comme dans la plupart des productions de l'époque, mais en fait des gens qui n'ont donc après l'argent et qui se maquillent en terroristes précisément
du Fox Plaza. Exactement. Qu'est-ce qui s'est inventé, selon vous ? Et ce sera ma dernière question, Jérôme Momcilovic. Qu'est-ce qui s'est inventé dans ces années-là ?
Je suis pas sûr. Là, j'ai envie de revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que je pense que, pour moi, il y a surtout un retour à une forme de, encore une fois, d'essence à la fois foraine et scientifique du cinéma, quoi. Vraiment de l'œil scientifique du cinéma. Est-ce qu'il s'est vraiment inventé des choses? Je pense que malheureusement, l'invention est du côté des choses qui ne sont pas les plus réjouissantes. C'est-à-dire, encore une fois, d'une redéfinition en profondeur du système des studios et qui nous a conduit là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que les films à grand spectacle qui sont inspirés de cette époque-là, je pense aujourd'hui aux films de super-héros, aux films Marvel, etc., sont des films dans lesquels il y a plus beaucoup de croyance, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'expérimentation, mais on a complètement perdu cette croyance assez enfantine dans le récit, quoi. Donc je suis pas certain voilà, je pense que le plus beau de la période, paradoxalement, le plus beau de ce qui reste de beau quand même dans ces années-là, c'est quelque chose au fond qui nous ramène plutôt vers l'histoire du cinéma que quelque chose qui serait vraiment une avant-garde, quoi.
La grande invention de cette époque-là, elle est d'ordre esthétique et technique, enfin surtout technique, même si le clip l'a certainement beaucoup encouragé, c'est le montage. À partir de Rocky et tous les Rambo et Die Hard et compagnie, vous avez une accélération du montage et ça va accentuer l'action et la super action. Et du coup, les scénarios vont avec le temps devenir de plus en plus irréels. La psychologie et la sociologie vont être abandonnées et ça va être le cinéma contemporain américain qui plaît beaucoup aux jeunes et qui malheureusement est assez exempt. Pour moi, le grand film des années 80, tout à l'heure je ne retrouvais plus la fin de ma phrase, mais on le doit sur le même sujet, né un 4 juillet d'Oliver Stone. Lui, c'était le plus lucide à l'époque de tous les gens qui ont parlé de l'Amérique, me semble-t-il.
Et il avait fait la guerre du Vietnam. Merci. Merci à tous les trois. Michel Ciotta, Frédéric Gimelo, Jérôme Momcilovic. On se quitte sur la BO de Rocky IV, Living in America. Jérôme, on peut voir votre série en replay sur Arte. Ça s'appelle Tous musclés. Et je recommande le chapitre 7. Hollywood, machine à muscles. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré, à la réalisation, Fanny Renard et Fabien Mugneret. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.